Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM à la suite des informés. Adil Farkan, 19h, 20h. Et oui, comme chaque soir. Et nous, la plage horaire, c'est 20h, 21h. L'avant-match, c'est Time Sport. Comme chaque soir aussi, en ce mercredi 9 février 2022. On verra quoi justement. Le Maroc, Ziyech a-t-il parlé trop vite peut-être? La Ligue des Champions, au rendez-vous de cette fameuse Ligue des Champions édition 2021-2022. Benzema commence à inquiéter le Real Madrid, et oui, de Florentino Pérez. Et enfin, la Première Ligue sera au menu de l'émission avec Manchester United qui n'arrive toujours pas. Et oui, pour le plus grand désespoir d'un certain Cristiano Ronaldo. On aura dans cette émission le directeur du Crêpes-Île de France, monsieur Michel Godard, avec nous dans cette émission. Mais c'est parti avec le JT Sport qui a été préparé, si gentiment bien fait par Jason. On y va.
Time Time Sport.
Et oui, on démarre les infos du mercredi par les résultats, ou plutôt le résultat du premier quart de finale de Coupe de France disputé hier soir entre l'AS Monaco et Amiens. Victoire 2-0 des Monégasques, premier qualifié pour le dernier carré de la compétition. Copier-coller pour l'Inter en Italie qui file en demi-finale de la Coupe d'Italie grâce à sa victoire contre la Roma. 2-0 également. On termine le football avec la titularisation surprise hier soir de Kurt Zouma face à Watford en Première Ligue. Au cœur de la polémique depuis lundi soir suite à la vidéo violente envers son chat, le défenseur français a tout de même été maintenu dans l'effectif par son club de West Ham qui affirme avoir réglé le souci en interne. Le joueur a également présenté des excuses publiques. On finit ces infos sport par les JO de Pékin bien évidemment et une nouvelle médaille pour la France. Et c'est l'argent qui a été décroché par Chloé Trépeuch lors de la finale de snowboard cross après avoir obtenu la médaille de bronze déjà en 2014. Voilà, c'est tout pour les infos du jour. En vous souhaitant une bonne émission avec Bilal et toute l'équipe Time Sport.
Et merci Jason, allez avec moi ce soir pour m'accompagner, on aura notre consultante Yasmine. Comment ça va Yasmine?
Bonsoir Bilal, bonsoir tout le monde, bah, écoute ça va super comme tous les mercredis soirs, très belle équipe ce soir.
Eh ben on l'espère, il nous revient de très 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 loin, on l'avait oublié son visage, toujours bel homme, c'est Terence, comment ça va?
Ça va bien, merci, ravi de vous revoir, ça faisait un certain temps.
Oui c'est vrai, ça fait bien longtemps.
Le temps passe vite.
Eh oui.
Mais on est toujours présent, ravi d'être là en tout cas.
Eh ben nous aussi, Terence, de t'avoir avec nous. Mourad sera de la partie, sans oublier Samir, comment ça va? Ouais, Samir, tu te mets là ou là, comme tu veux. Ouais. Parce que là, on dirait MC Hammer, hein. Ça me fait penser 1991, hein. Eh ouais, on ne sait pas, la cérémonie des Grammy Awards.
Hein? Bonsoir tout le monde, bah, écoutez, ça va, super. Hein. Bah, je suis en train de suivre en direct Versailles, on va être.
Ah oui, Versailles, un but à zéro, c'est
un
ça?
Un but à zéro encore pour le moment, donc moi je croise les doigts pour Versailles, j'espère qu'ils passeront.
Coupe de France 2022.
C'est le Parisien qui parle.
Ah oui, le Parisien. Bon, on va voir. Et, peut-être le PSG aura un peu trop, c'est ça, Terence, du souci à se faire avec ces avancées de Versailles ça, en Coupe de France. Ouais, bon, avec ce club.
Apparemment, il y a des bruits de couloir, il y aurait de gros investisseurs privés qui mettraient des billes à Versailles pour faire un gros club parisien.
On verra. Coupe de France, Nice, Marseille aussi ce soir, quart de finale. C'est bien ça, Terence, hein?
C'est
ça. Oui, Yasmine.
C'est une belle affiche, hein. C'est l'affiche du jour en Coupe de France.
Oui.
Et en espérant peut-être une victoire marseillaise ce soir.
Pourquoi pas 21h15 en tout cas.
Ça, c'est une parole de cœur, en fait.
Oui, 75e exactement. Minute, Bergerac, FC Versailles. Et toujours un but à zéro pour Versailles. Et oui, on aura demain encore les Canaries de DJ Kim qui rencontreront les Bastiers de... Bastia. Bastia, 21h demain. Et on accueille aussi, allez avec nous. Il a été avec nous, c'est Kevin de l'école des métiers du football. Il est avec nous ce soir justement. Comment ça va, Kevin?
Ah bah écoute, moi ça va super bien. Encore un plaisir de pouvoir retrouver au studio. Donc merci pour l'accueil et cette opportunité de pouvoir passer et encore une petite fois avec vous.
Donc, ah bah c'est super. Eh ouais, c'est super. Une petite pensée aussi aux Auxerrois, c'est ça?
On a toujours
la JOCR.
La JOCR qui vacille. Hein,
ce club tant aimé par Samir
il
aussi.
Il est là avec un beau t-shirt également.
Ouais, Socrates, c'est ça?
Socrates et Zico, 82, belle dédicace, bien joué.
Ah bah voilà.
Elle a l'œil Yasmine.
Ouais.
T'aurais pu mettre le t-shirt de Vaillurua et Coquart sur les côtés. Ça.
J'aurais pu le mettre aussi. Ouais.
Pourquoi pas? Allez, le premier sujet de cette émission avec Giovanni à la réalisation.
Time Sport. Le sujet des sociaux.
Eh oui, à 28 ans, Hakim Ziyech, justement, 45 actions, on le rappelle, 17 buts, Samir, et il a décidé de mettre fin à sa carrière internationale, non retenue par le coach Vaïd, on le rappelle, sur cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Alors
Le cas Ziyech, de toute manière, on Maroc qui pose problème depuis un certain moment. Quand je dis qu'il pose problème, évidemment que sportivement, c'est certainement l'atout numéro 1 de la sélection marocaine. Par contre, plusieurs retours font état d'un comportement qui est pas très collectif de Ziyech. Et il fait partie de ces joueurs qui ont beaucoup d'ego, beaucoup de fierté. Si tu ne vas pas dans son sens, voilà, il peut te faire la tête du jour au lendemain. Et on l'a vu évidemment comment ça s'est passé avec Vaïd. À noter que ça s'est pas passé qu'avec Vaïd pour le cas Ziyech. Hein.
Alors
ça s'est passé à plusieurs reprises dans les clubs évolués, notamment avec son premier coach à l'Ajax Amsterdam. Avec Tuchel, c'était pas non plus aussi super beau depuis le début de saison. Moi, je trouve qu'il a fait une erreur de parler aussi vite.
Il aurait dû attendre.
Il aurait peut-être dû attendre, et puis des bruits de couloir font état d'une future rencontre entre le président de la Fédération marocaine de football et Vaïd pour faire en sorte justement qu'un talent comme celui-là, qui peut être certainement le joueur qui va peut-être les qualifier pour la Coupe du Monde, qui peut être un joueur qui va justement les aider pour en cas de qualification en Coupe du Monde, de justement d'aller le plus loin possible, ou en tout cas passer les poules, donc se passer du meilleur atout offensif pour la sélection marocaine et puis pour les supporters. Je trouve ça tellement dommage. Donc c'est mon humble avis. Je pense pas que ce soit définitif.
Oui.
Je pense qu'il a dit ça parce que lui et Vaïd c'est mort. Mais je pense qu'il y aura des entremetteurs qui vont essayer de calmer cette histoire, cette petite guéguerre entre.
On l'espère.
Entre les
pas.
Deux personnages.
Le revoir, ce magnifique joueur, Yasmine Terrence.
Pour moi, c'est un divorce qui était inévitable, non pas entre Ziyech et Vaïd, mais vraiment entre Ziyech et la sélection marocaine. Après, il faut remettre les faits, on va dire, dans l'ordre chronologique et dans leur contexte. Les débuts de la dégringolade de Ziyech avec la sélection marocaine, ça a été sous l'ère d'Hervé Renard. À ce moment-là, donc, il est convoqué. Il n'est pas tout le temps convoqué. Quand il est convoqué, il est souvent remplaçant. À ce moment-là aussi, comme tu le disais, il faisait état un peu de comportement pas très... exactement. Exactement. Un comportement un peu négatif, pas très professionnel. Donc, il décide à ce moment-là de ne plus être appelé en sélection marocaine sous l'ère Renard. Et là, il y a effectivement à ce moment-là l'intervention du président de la Fédération marocaine de football qui arrive à les réconcilier. Mais par rapport à cette question-là de Ziyech en sélection marocaine, pour moi, il a plus été, on va dire, dans la réaction que dans la réflexion. Ça a été une réaction un peu trop rapide par rapport à ce fait d'arrêter la sélection. Mais surtout, peut-être qu'il a eu vent aussi du fait que Vaïd allait peut-être un petit peu continuer avec la sélection marocaine, notamment pour les barrages. Et puis il s'est dit, c'est terminé pour moi. Mais ce qui est intéressant avec ce joueur-là, c'est que c'est un joueur aussi qui, on va dire, a besoin un peu de reconnaissance de son sélectionneur et... de ses entraîneurs. C'est exactement. Un peu plus pour des joueurs comme ça, parce que bon, il a aussi, c'est le dernier d'une fratrie quand même de 9 enfants. Il a perdu son père très tôt. Donc c'est quelqu'un qui cherche un peu la reconnaissance paternelle auprès aussi d'un sélectionneur et d'un manager. Après, sa décision, effectivement, elle a été très rapide. Et quand on a un sélectionneur comme Vaïd, qui lui a plutôt un management autoritaire et non pas, on va dire, un management un peu paternaliste, la communication descendante, finalement, elle se fait beaucoup moins envers les joueurs. Et du coup, avec un joueur comme Ziyech, ça ne fonctionne pas forcément.
Terrence,
moi, je pense que c'est une réaction d'ego. Je pense que... tu t'aperçois depuis qu'il n'est pas qualifié à la CAN, il sort des matchs de fou avec Chelsea. Chaque fois, il sort quasiment, il est homme du match, quasiment sûr. Il est lui-même le meilleur joueur du match. Et je trouve que c'est dommage parce que tu t'aperçois que finalement, c'est deux joueurs qui. Enfin, c'est un coach et un joueur qui vont se prendre la tête. Et la problématique, c'est que tu fous toute une sélection un peu en l'air parce que quand t'as deux fortes têtes comme ça, ben malheureusement, t'arrives pas. Ça fait des étincelles et ils n'arrivent pas à se mettre autour de la table pour pouvoir discuter de façon posée et essayer d'arranger les choses. Et c'est toujours la problématique quand tu as des gens qui ont un gros caractère et beaucoup d'ego, ce dont sont ces deux personnages. Et ça va être, comme tu disais Yasmine, ça va être compliqué à recoller. Après, il faut qu'il y ait une intervention, on va voir de quelle façon. Il faudrait que chacun mette un peu d'eau dans son vin pour pouvoir avancer de façon positive sur la sélection, parce que
c'est pas du tout dans le caractère de Vaïd en même temps.
Oui, mais je trouve, après c'est perso, je trouve que c'est complètement dommage de se passer d'un joueur qui est pétri de talent comme ça
Je ne reviendrai pas en équipe nationale, c'est ma décision finale. Hein.
Après, Vahid a dit un peu, il a pris en exemple Deschamps quand il n'a pas appelé Benzema. Donc, lui, pour lui, c'est justifié hein, complètement.
Ah oui, carrément.
Après, tu peux toujours revenir sur tes décisions. Je trouve que c'est dommage. Après, c'est une problématique d'ego. Vahid a toujours eu un ego surdimensionné et parfois à tort.
On en parlait avec Yacine en plus dans cette émission. Kevin, peut-être une réaction concernant Ziyech.
Moi, je rejoins un petit peu ce que dit tout le monde autour du plateau. Il y a une question d'ego. La décision, je pense qu'elle a été prise à chaud. Il a été vexé. Je pense qu'il va peut-être mûrir sa réflexion avec le temps. Peut-être qu'il va se rendre compte qu'il a fait une erreur. Après, moi, footballistiquement, je trouve que c'est dommage. Parce qu'intrinsèquement, c'est un joueur qui est exceptionnel. Donc, pour la sélection marocaine, de se priver d'un joueur d'un talent aussi important, c'est du gâchis. Ça me rappelle un petit peu. Alors, j'aime pas les comparaisons. Puis, de toute façon, on va y venir après en parlant de Benzema. Mais quand on voit que Benzema était privé d'équipe de France pendant 5 ans et se dire qu'on voit la qualité qu'il avait et que là, on se retrouve dans un cas plus ou moins similaire, c'est dommage. Donc, je pense qu'à la fois, Ziyech est perdant. La sélection marocaine va être perdante. Et puis, coach Vahid, donc on connaît un petit peu sa rudesse. Ouais. Et sa forte tête, moi j'ai connu un petit peu Stéphane Pichot qui jouait au Stade Lavallois à l'époque et qu'il a eu donc du côté de Lille dans le début des années 2000. Fallait éviter de rentrer au clash. En fait, après qu'une fois qu'il a quelqu'un dans le nez, il l'écarte et
ouais.
Je suis certaine que si la sélection marocaine ne se qualifie pas pour la Coupe du Monde, Vahid ne va pas continuer avec le Maroc et je pense qu'il se peut que Ziyech revienne sur sa décision à ce moment-là.
Ouais. Alors Samir,
c'est une certitude et pour rejoindre juste ce que vient de dire Kevin juste avant, justement en parlant du caractère de Vahid, je ne sais pas si vous avez lu une interview de Belhanda en fait,
oui,
à nos confrères de SoFoot. Il a fait une interview en expliquant pour quelles raisons aujourd'hui il n'était plus en sélection nationale, et pour une histoire de kiné. Il y a un kiné qui était dans le staff de la sélection marocaine depuis 20 ans.
Ouais.
Et Vahid, quand il est venu, il s'est dit, le kiné, il est un petit peu trop proche des joueurs, ça me va pas, faut que je vire. Donc il vire le kiné, mais c'est un personnage que tous les joueurs aiment apprécier beaucoup. Mmh. Donc Belhanda, grande gueule qu'il est parti voir le sélectionneur en lui disant, pourquoi tu l'as viré, ça fait 20 ans, on est bien avec lui, etc. Le fait que Belhanda est venu
se confronter à ça,
à Vahid, Belhanda terminus, plus de sélection. Donc avec cet épisode qu'il a eu avec Belhanda, je le vois pas du tout justement faire le premier pas avec Ziyech. Après, évidemment, je suis d'accord, là tout le monde est perdant. Tu peux être international, tu peux être la star de ton pays, tu ne vas pas l'être. Vahid, en mettant Ziyech sur le terrain, tu peux te qualifier, faire des grandes choses grâce à ce joueur-là.
Ouais.
Tu vas peut-être éviter ça.
Alors,
la Coupe d'Afrique des Nations pour la dernière.
Ouais.
Si le Maroc l'avait gagné, on aurait dit c'est Vahid qui a raison, Ziyech on s'en fout. Malheureusement, ils n'ont pas gagné. Donc ça voudrait dire qu'aujourd'hui, le cas Ziyech, la question se pose aujourd'hui. Tu te dis, en plus, offensivement, on est tous peut-être unanimes sur ce plateau pour se dire que c'était vraiment les carences de la sélection marocaine. Défensivement, il n'y a aucun problème. Le gardien de but, la défense, aucun souci, mais offensivement, il manquait vraiment un tueur, quoi. Devant le but, à la dernière passe, dans les zones de vérité, il manquait un joueur, justement, comme Ziyech. Maintenant, là où Ziyech, je trouve, et là, c'est un avis personnel,
oui,
je parle pas de la dernière CAN, mais de l'avant-dernière CAN, de mémoire. Je crois que c'était le match où ils sont éliminés contre le Bénin. Herbert le sort à la 89e minute. Tu as quand même fait quasiment tout le match. Et quand il sort, il fait la gueule. Il veut montrer à tout le monde, tu m'as sorti, je suis pas content. Il fait la gueule. Et ça, je trouve que c'est des mauvais messages qu'il envoie, justement. Donc, je pense que le problème, il n'est pas unilatéral. Il vient d'un peu tout le monde. Et malheureusement, que tout le monde mette de l'eau dans son vin, ça va être très compliqué dans cette histoire.
Ouais, c'est compliqué. Tu t'aperçois.
Rapidement, avant la pause.
Ouais, très rapide. Alors, tu t'aperçois que tous les joueurs qui ont un ego comme ça et un gros caractère, ils aiment pas sortir. Tu prends, on fait le parallèle. Regarde Ronaldo quand il a fait banquette, il a fait la gueule. Et Ziyech, en fait, un état d'esprit aussi qui est négatif sur ce côté-là, parce que tu peux prendre du recul au bout d'un moment. Tu peux faire ça.
Ouais.
Ça te fait chier. On sort en plein match, même à la 89e. Tu veux continuer. T'as une part de dégoût par rapport à ça. Mais bon, tu représentes quand même ton pays. T'as joué quasiment toute la compète. Et faut prendre un peu sur toi, puisque t'es pas tout seul. Tu fais partie d'un groupe quand même.
C'est vrai.
Un collectif. Et t'es pas sur un sport individuel. Mais
on verra par la suite. Merci Terence, merci à l'équipe de Tamsport. On va marquer d'une courte pause avant de revenir avec notre invité Michel Godard. À de suite.
Tamsport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, toujours en compagnie de Yasmine, de Samir, Kevin qui nous a rejoint et sans oublier Terence. Voilà, on cherche aussi Mourad, mais il va arriver Mourad pour le plus grand plaisir des auditrices et des auditeurs de Beurre FM. On a parlé justement de Ziyech, de cette sélection marocaine. On aimerait s'attarder cette fois-ci avec notre invité de ce soir, qui n'est autre que Michel Godard. On va essayer de l'avoir rapidement avec nous. À la régie, on est OK. Justement, on l'accueille pour la première fois dans cette émission pour parler notamment du sport en règle générale, mais aussi de Paris 2024 à venir, aussi de ces JO d'hiver de Pékin. Peut-être un mot à dire, on aura sur cela. Allez, on l'accueille. Bonsoir, Michel.
Bonsoir.
Comment allez-vous?
Très bien.
Oui. Bonjour, un plaisir de vous avoir avec nous, monsieur Godard.
Le plaisir est partagé.
Vraiment, sur l'antenne de Beurre FM, carrière de haut niveau, on le rappelle, en tant que gardien, mais aussi d'entraîneur. Vous avez occupé pas mal de postes, notamment de conseiller technique régional et inspecteur de la jeunesse et des sports. Aujourd'hui, vous êtes quand même le président de ce fameux CREPS Île-de-France. On le rappelle un peu, c'est le centre de ressources, d'expertise et aussi de performance sportive. La performance aujourd'hui, on l'a, mis à part quand on dit performance, on s'attache beaucoup à ce qui se passe dans le monde du football. Autre que le monde du football, on aimerait s'attarder ce soir avec vous, monsieur Godard, sur le sport en France. On est, durant ces semaines à venir, en période présidentielle, électorale, si je peux me permettre, et aujourd'hui, le sport a une part quand même assez incroyable dans les programmes de nos politiques. Mais aujourd'hui, vu du président du CREPS, comment ça se passe à l'approche des Jeux Olympiques d'été à Paris en 2024?
Là, écoutez, dans votre question, il y a plein de questions.
Oui, c'est vrai, je fais exprès, vraiment.
Je vais essayer de répondre d'une manière méthodique. C'est vrai que déjà, les candidats aux élections présidentielles s'intéressent au sport et s'intéressent évidemment à comment on peut améliorer la pratique sportive, comment on peut développer cette pratique sportive, en faire vraiment quelque chose de culturel, et puis comment aussi améliorer l'encadrement technique, l'encadrement des jeunes, notamment, et puis aussi le sport de haut niveau. Donc c'est des sujets, c'est trois sujets qui sont redondants, mais qui contribuent à la réflexion autour de la pratique sportive, ça c'est sûr. Et les candidats sont très demandeurs d'idées sur ce sujet. Et je fais comme tout le monde, je lis ce qui est proposé, et puis et quand on me demande, je dis ce que j'en pense.
Peut-être une réaction avec Yasmine. Allez, une première réaction avec toi, monsieur Godard, avec nous.
Bonsoir. Effectivement, j'avais une petite question. J'aurais voulu savoir quel a été, on va dire, l'impact de la crise sanitaire au niveau du CREPS.
Alors, un peu comme on peut trouver dans toutes les affaires sportives, c'est que, bien entendu, d'abord, le CREPS a cherché à protéger ses pratiquants, protéger les sportifs, protéger les stagiaires de la formation professionnelle et protéger aussi les agents qui y travaillent. Donc on a mis systématiquement en place des mesures plus importantes que le gouvernement demandait pour qu'on puisse survivre, parce qu'on quand même on essaye de survivre à certains moments. Le CREPS en 2021 a été obligé de fermer fin avril, début mai, pendant 10 jours, de manière à absorber cette pandémie. Puis, depuis cette période-là, 2021, on a pu continuer nos activités. Alors, quand il s'agit de la formation professionnelle, ça a été beaucoup fait en distanciel. Quand il s'agit du sportif de haut niveau, c'est aussi des pratiques qui ont été bien encadrées pour qu'on puisse continuer. Et ce que je devrais toucher du bois, mais actuellement, depuis le mois de septembre, ça se passe plutôt très bien. On maîtrise bien la situation, on assure les gestes barrières, on est très, très prévoyant. Ces derniers temps, on a fait une grosse campagne d'autotest hein, ce qui nous a permis de faire en sorte que les sportifs qui étaient touchés par cette pandémie et la COVID-19 puissent être extraits de nos pôles sportifs. Donc ça se passe bien. Ça se passe bien, mais on est prévoyant, ça c'est sûr.
On écoute Terence avec Monsieur Godard ce soir avec nous sur l'antenne de Beurre FM, on le rappelle.
Bonsoir.
Bonsoir.
Je voulais savoir, est-ce que vous mettez également en relation, en parallèle avec l'INSEP, étant donné que l'INSEP, vous êtes bien placé pour le savoir, travaille avec beaucoup de sportifs de haut niveau. Est-ce que justement, vous, sur toute la partie formation, est-ce qu'il y a un retour là-dessus?
Oui, alors, ce que je peux dire, c'est qu'on travaille bien avec l'INSEP. Bon, je vois que vous êtes bien informé, en tout cas.
Hein, bon, on essaye, vous savez.
Travail d'investigation. Moi j'ai passé 11 ans à l'INSEP, donc j'étais avant de partir directeur général adjoint, ce qui permet d'avoir gardé d'excellents contacts avec l'ensemble des services de l'INSEP, et ce qui nous permet de, notamment sur la formation des sportifs, ce qu'on appelle maintenant le double cursus, le fait d'avoir l'ambition d'aller sur les podiums olympiques, mais aussi de réussir sa vie sociale. Et donc de réussir sa scolarité pour l'insertion professionnelle future. Donc on a de très très bonnes relations avec l'INSEP. Je pourrais citer des exemples, que
alors,
ce soit de la part des chercheurs, que ce soit la diététique, l'optimisation de la performance, des choses comme ça. On a de très bonnes relations. On a de très bonnes relations aussi avec la formation des cadres. Et puis on a aussi de très bonnes relations. D'ailleurs, lundi prochain, il y a ce qu'on appelle, nous, le forum de l'orientation, c'est-à-dire que nous proposons à tous les sportifs de l'Île-de-France de venir rencontrer une trentaine d'écoles qui font des aménagements scolaires pour la formation des sportifs de haut niveau. Et donc l'INSEP participera, parce qu'ils viennent, il y a deux bus de l'INSEP qui viennent participer à ce forum. Donc c'est une belle manifestation au CREPS lundi prochain sur cette idée d'orienter les sportifs qui sont à la recherche de parcours professionnel et puis d'ambition, évidemment, de s'insérer dans la société après.
Et vous avez raison, on a bien fait de le noter. Pour le plus grand plaisir des auditrices et des auditeurs de Beurre FM. Une réaction avec Samir, Monsieur Godard.
Oui, je vous en prie. Vous faites une passerelle là, dans votre intervention. Bilal parlait en introduction de performance. Effectivement, il y a une échéance importante qui arrive en 2024. Est-ce que vous avez décidé de vous organiser différemment justement par rapport à cette échéance qui arrive, qui sera super importante? Et est-ce qu'il y a des objectifs, il y a des ambitions qui sont un petit peu différents de la manière dont vous avez l'habitude de travailler depuis un moment?
Alors bien entendu, l'ambition 2024 est notre ambition aussi. Et ce qui va changer en fait sur les deux années et demie qui restent, c'est que nous allons accueillir beaucoup de délégations étrangères. Nous le faisons déjà, nous en avons à peu près une quinzaine par an. Mais nous allons accueillir beaucoup de délégations françaises qui auront à préparer les Jeux Olympiques et qui souhaiteront, connaître le terrain avant d'arriver en fin juillet, début août 2024. Et donc de leur permettre de connaître le terrain, de connaître les paris, puisqu'on est sur Paris 2024. Et à partir de ce moment-là, on sera amené à proposer des services à toutes ces délégations étrangères qui souhaiteraient préparer pour le mieux les Jeux Olympiques. Et pour ça, nous avons été labellisés Centre de préparation des Jeux. Et donc, ça veut dire qu'on a des services qui répondent à un cahier des charges extrêmement strict d'accueil des délégations étrangères pour la préparation des Jeux Olympiques 2024.
Justement, cette cohésion, on la retrouve pour Paris 2024? Oui, le CREPS, l'INSEP, ou encore même certaines DTN. Je suis sérieux, Monsieur Godard. Vous savez, le travail, par exemple, la corrélation que l'on peut avoir avec les institutions du sport en France. Je ne sais pas si vous comprenez.
Comprends très bien, parce que je suis au quotidien au contact des directeurs techniques nationaux. Donc à partir de ce moment-là, si j'ai un message à donner aux directeurs techniques nationaux, ça serait bien qu'ils puissent assez rapidement constituer, établir leur programme pour la préparation des Jeux 2024. Comme ça, les CREPS, je parle plus largement les CREPS, pourront se situer par rapport à l'accueil des délégations étrangères. Nous sommes conscients que les résultats français sont bien entendu des résultats qui sont nécessaires et on est prêt à accueillir les délégations françaises, mais on a besoin de connaître leur programme pour que après nous, on puisse, comme c'est prévu par la charte des Jeux Olympiques, accueillir les délégations étrangères. Donc on a besoin de travailler en cohérence avec les directeurs techniques nationaux sur la préparation des Jeux.
Alors on poursuit pour terminer avec Samir et Terence. Oui.
Pardon, merci, excuse-moi. Par contre, vous n'allez pas avoir une problématique au niveau des infrastructures, parce que c'est vrai qu'en France, on est quand même assez pauvre sur un paquet d'infrastructures concernant toute la panoplie des Jeux Olympiques. Alors on est équipé sur des terrains de foot, sur des terrains de tennis, mais sur d'autres sports olympiques, en termes d'infrastructures, on est quand même assez limité. Donc je pense qu'il y a aussi un problème de fond à travailler avec le ministère des Sports, si on veut développer toute cette partie aussi formation et qu'on ait de plus en plus de jeunes qui arrivent à sortir à certains niveaux, parce que quand on voit certains athlètes, juste par exemple sur de l'athlétisme ou sur d'autres sports, c'est assez compliqué quand même.
Alors, bien entendu, je partage votre idée, mais je rappelle que le président de la République, Emmanuel Macron, a un programme de 5 000 installations sportives supplémentaires avant 2024, et que les fédérations sont chargées de déposer leurs projets pour que justement on puisse profiter de ces 5 000 installations qui sont des installations extérieures. Donc qui permettront au sport co, à l'athlétisme, à des différents sports, même le breakdance ou le roller ou tout ça, de s'exprimer en extérieur. Et il y a ce programme de 5 000 installations sportives. Donc on est en plein dedans et les fédérations doivent déposer leurs projets très rapidement pour bénéficier des aides qui sont prévues à cet effet.
Allez, pour terminer avec toi Samir.
Non, moi c'était juste une question, mais très légère. Hein.
Alors,
est-ce qu'il peut nous faire un pronostic et nous dire est-ce que enfin l'équipe de France de football en 2024 va peut-être prendre une médaille et être un petit peu meilleure que ce qu'on a vu là dernièrement?
Oui, j'avoue que je ne sais pas, je n'irai pas sur ce terrain-là. Alors moi je suis. Moi je suis handballeur. Alors, et vous savez que le handball fonctionne plutôt bien, donc je prévois pour 2024 une double médaille d'or pour les handballeurs et les handballeuses. Donc mais c'est mon sport et à partir de ce moment-là je soutiens. Par contre les autres sports, c'est très difficile de se prononcer sur la qualité des effectifs qu'il y aura pour 2024. Mais j'espère que la fédération de foot fera l'effort de mettre les meilleurs sur le terrain.
Eh oui, un grand merci à vous, Monsieur Godard, d'avoir été avec nous sur l'antenne de Beurre FM. On le rappelle, vous êtes président du Krebs Île-de-France. On est bien d'accord. Merci pour le temps donné aux auditeurs de Beurre FM et aux auditrices, vraiment.
Merci à vous.
Merci. Allez, on poursuit cette émission avec justement. Alors, on a du temps avec la Ligue des Champions et Karim Benzema.
Time Sport. La troisième mi-temps.
Et il se lève de son siège, on ne sait pas pourquoi. Quand on aborde le cas de Karim Benzema, Mourad commence à rentrer en compète. La Ligue des Champions oblige. Oui, peut-être on aura la mélodie de cette Ligue des Champions pour le plus grand sourire aussi de Kevin. Eh oui, ça fait sourire Samir. Ouais, il me fait peur lui aussi. Terence est en train de.
Tout le monde se désabille.
Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Tu vois Yasmine, comment ils sont? C'est assez fou. Justement. On n'a pas parlé. 21h15. Nice, Marseille, quart de finale de la Coupe de France. Carrément. Voilà, il les met dans l'ambiance. Et Giovanni, il est assez chaud aussi. Le Paris Saint-Germain rencontrera dans ce 8e de finale aller le Real Madrid. D'un certain Carlo Ancelotti. On verra peut-être s'il y aura sur cette pelouse de cette antre parisienne un certain Karim Benzema, voire encore Vinicius et toute cette pléiade de stars, ou peut-être dans l'autre camp, la vraie pléiade de stars et la bande à un certain Léo Messi. En tout cas, Karim Benzema, il sera ou il sera pas. Alors, Mourad, justement.
Bonsoir à tous.
Ouais, Mourad, tu vas bien.
Tu arrives avec un sévère retard quand même. Hein.
Oh, tranquillement, Mourad, t'étais là depuis tout à l'heure.
T'as fait pire, Mourad. Ouais, ça va. T'es dans les temps, là, l'émission n'est pas finie.
C'est à cause de la coupe de cheveux.
Exactement. Je crois que c'est le coach Tolé qui a fait pire.
Vraiment, tu me posais la question sur Karim Benzema.
Ouais, Karim Benzema, la Ligue des Champions.
La Ligue des Champions, je pense que l'absence de Karim Benzema, c'est plus que l'absence d'un seul joueur, puisque Karim Benzema représente, au-delà du joueur, ça représente toute l'animation offensive du Real Madrid. Et sachant aujourd'hui que le Real Madrid n'a pas de plan B, quand tu laisses Jovetic et
il y a Eden Hazard,
Jovic, hein. Pardon, et le lofter Mariano, c'est ça, ouais. Sur le banc, et que tu fasses jouer Isco ou de temps en temps Asensio devant, donc là il y a un gros problème. Donc bien sûr qu'elle est préjudiciable. Après je me dis, est-ce que le Real Madrid ne peut pas compter sur un collectif pour pouvoir battre le Paris Saint-Germain?
Ouais.
Je sais pas, donc ça c'est une question. Je pense qu'on aura une réponse à cette question la semaine prochaine. Après le Paris Saint-Germain aussi, s'il n'y avait pas Kylian Mbappé,
alors
je pense qu'on aurait le même problème. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je réinverse un peu le problème. Si demain le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé était absent, je pense qu'ils auraient eu le même problème. Parce qu'aujourd'hui, la seule valeur sûre et la seule source d'animation offensive, c'est Mbappé, côté parisien.
Ouais.
Donc voilà, donc Benzema, on peut en discuter.
Un certain, Samir.
La certitude, c'est que c'est sûr et certain qu'un Real Madrid avec et sans Benzema, c'est pas la même équipe.
Ah ouais, il n'y aura pas la même saveur peut-être.
On se rappelle du dernier PSG Real, et c'était à cette époque-là, Ancelotti, mais c'était Zidane.
Ouais, Samir.
Coach, le travail défensif que Benzema avait réalisé, il était extraordinaire en venant bloquer les milieux de terrain. C'était vraiment extraordinaire le travail qu'il faisait. Sans ballon, avec ballon. Justement, j'ai tendance à être optimiste si Benzema n'est pas là. Moi qui suis très inquiet, à la dernière mission de Bilal, je t'en ai parlé en fait de la
situation
que j'ai forcément vis-à-vis de ce match. Sortir en 8e de finale de la Ligue des Champions, ça serait encore une énième fois quel mot employer, quel adjectif employer? Un chaos, une honte, je sais même pas quoi dire. Avec Messi, avec Mbappé, avec Verratti, avec Neymar, mais c'est pas possible de sortir encore une fois avec tant de stars. Et on est aujourd'hui, le Paris Saint-Germain va bien démarrer sans Neymar. Je suis pas sûr que Real Madrid soit aussi inquiet que nous de ce qu'on est en train de dire sur le cas Benzema. Donc pour vous dire l'importance que ce joueur représente dans la maison madrilène.
Bah oui, Karim Benzema, c'est 24 buts, 9 passes décisives, je crois, à toutes compétitions confondues. Il n'y a pas de remplaçant naturel à Karim Benzema dans cette équipe madrilène. Ça va être compliqué pour le Real Madrid. Surtout qu'en plus, Carlo Ancelotti est aussi privé de Fernand Mendy, il me semble, l'autre français. Alors, quand Fernand Mendy est absent, au moins tu peux mettre, on va dire, Alaba à gauche et Nacho en défense centrale. Mais là, pour Karim Benzema, tu peux mettre qui, finalement? Finalement, l'équipe, elle va reposer sur Vinicius, peut-être. Mais je pense pas que sans Karim, je pense pas qu'il arrivera à faire des merveilles non plus. Après, moi, je dis que le PSG peut y croire. Il peut y croire parce que la saison dernière, ils ont éliminé le Bayern de Munich avec l'absence de Lewandowski au match aller. Donc, moi, je dis c'est le malheur du Real Madrid peut faire le bonheur du PSG cette année.
Moi je pense effectivement t'enlèves Benzema, c'est effectivement plus du tout la même équipe. Après il y a une autre problématique qui va se poser, ça va être la bataille au milieu de terrain. Parce que si tu peux avoir les meilleurs joueurs du monde devant, si derrière au mitard l'attaquant est pas alimenté, t'auras rien. Et toute la problématique, et quand je regarde un peu les matchs actuellement du Real Madrid, c'est vrai que quand tu prends entre Casemiro, Kroos et Modric, il y a du souci à se faire.
Ouais.
Ouais, sachant que Camavinga serait censé suppléer
Camavinga.
Voilà,
T'as vu sa prestation pas il
a... C'est ça le problème, c'est que derrière, en fait, il n'y a rien.
J'ai regardé sa prestation, j'ai allumé la télé, il a voulu mettre un crochet au 9 et c'est parti en contre semaine dernière.
Sa dernière prestation,
c'était un match de quartier en moins de 13.
Ouais,
bon, c'est vrai. On va faire une courte pause, on va revenir avec le Real Madrid, c'est promis, versus Paris Saint-Germain, sans oublier après la Première Ligue. A de suite.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour pour la dernière partie de cette émission jusqu'à 21h, excusez-moi, chaque soir, c'est Time Sport avec toute l'équipe. On le rappelle, autour de cette table, avec Yasmine, avec Terence, Kevin qui nous a rendu visite, sans oublier Mourad, notre consultant, et Samir. Alors on regarde Mourad. On va continuer avec Karim Benzema, mais aussi le Paris Saint-Germain, ce fameux huitième de finale aller qui les opposera au Real Madrid, justement. Certains, on verra bien, en tout cas, Mourad, c'est vrai. Avec Benzégol.
Avec ou sans Benzégol, de toute façon, côté Paris Saint-Germain, tout est possible.
Bien sûr.
D'un côté comme de l'autre, on a connu des succès.
Avec toi.
Terence a évoqué l'élimination du Bayern, on a connu aussi de grosses désillusions. On se souvient de la remontada en 2017. Et c'est pas une remontada anodine. C'était avec 4-0 à domicile à l'aller. Ensuite, on connaît la suite de l'histoire. Il y a 2019 avec Manchester United, où ils gagnent à Old Trafford. Donc moi j'attends de voir. Il y a des absences aussi côté parisien, notamment Sergio Ramos, il me semble, qui est incertain ou qui sera.
Je sais même pas si
je crois,
match,
je crois qu'il sûr. A fait un match en début de saison. Je sais même pas si c'est une blessure diplomatique pour Sergio Ramos, parce que comme par hasard il revenait, et quand il a appris qu'on était sur un retour à Santiago Bernabéu, ben du coup il traîne la patte.
Bon, il a eu le temps de visiter la ville en tout cas.
Ah ça c'est sûr qu'il peut faire chauffeur Uber même. Non mais c'est vrai, donc il y a Sergio Ramos.
Il paraît qu'on l'a vu vendre des petites tours Eiffel aussi.
Arrête tes bêtises toi, c'est Mitterrand, tu vois. Bah,
je pense que lui c'est de réelles tours Eiffel qu'il peut vendre. Ensuite il y a aussi Neymar qui serait un peu,
Neymar sur le retour, short. On l'espère.
Voilà, à court de forme en tout cas.
Ouais.
Je pense qu'il va essayer de le réintégrer au fur et à mesure. Mais,
moi je me disais que ça serait pas un match pour Messi justement face au Real Madrid, qu'il a eu l'habitude de jouer contre le Real. Ça lui réussit plutôt bien. Je me dis peut-être qu'on verra sur ce match un bon Lionel Messi.
Bah en tout cas, il est archi motivé. Je pense que vous avez lu la presse. Apparemment, là, c'est vraiment des bruits de couloir parce que ça s'est changé dans les vestiaires. Qu'apparemment, il était ultra motivé, qu'il avait envie d'en découdre, etc. C'est tout à fait possible. Il l'a fait.
On verra bien.
Et là, le PSG joue mieux depuis 3-4 journées.
Ce qui va être intéressant aussi, c'est l'attitude de Kylian Mbappé sur ce type de match.
Lui qui a annoncé au Real Madrid,
effectivement.
Lui-même l'a dit que la donne avait changé depuis que le PSG avait tiré au sort le Real Madrid pour ce huitième de finale. Kylian Mbappé, on peut lui reprocher plein de choses, mais je pense que c'est un vrai professionnel. Il va se donner à fond, je pense pas qu'il va lever le pied. Et au contraire, plus il se donnera à fond et plus le prix sera important.
C'est un côté émotionnel qui va rentrer en ligne de.
Justement, je pense que ça va le booster. Je sais pas ce que vous en pensez.
Moi, je pense que justement, il a tout intérêt à faire un gros match, peu importe l'issue de Kylian Mbappé. Il signe au Real Madrid, il met d'accord.
Sa mère.
Il leur donne raison justement de le recruter. Si c'est l'inverse, justement, il se tire une balle dans le pied parce que sa saison va se finir en limite.
Ouais, malheureusement.
Je trouve pas ça fou pour un joueur de ce calibre-là. Qui a tant d'ambition. Moi, je pense que justement, il a intérêt à faire le match de sa vie contre le Real Madrid, même si l'année prochaine, la saison prochaine, il signe là-bas.
Et puis la question, de toute manière,
Kevin.
Pas forcément qu'elle se pose. Tu joues contre le Real Madrid, forcément, c'est une affiche et peut-être le plus beau match qu'ils vont jouer cette saison, si l'histoire se répète, les éliminations successives, on ne les oublie pas. Mais je pense que non, Mbappé va sortir le gros match et c'était un très bon point souligné de Yasmine concernant Messi, parce que je pense que ça peut être effectivement son match. C'est le Real en face, sa motivation va être naturelle, il va sortir les doigts du derge comme on dit, et je pense qu'à mon avis il peut faire très mal au Real, surtout en cas d'absence de Karim.
Moi je pense qu'il y a un autre joueur qui va être archi motivé. Faut pas oublier la formation d'Hakimi.
Aussi, c'est vrai.
Hakimi Vinicius, ça va être un sacré duel par contre.
Ça va être costaud, parce qu'Hakimi, il a quand même pas été gardé au Real. Je pense qu'il va être hyper revanchard. Et quand tu vois la canne qui sort, donc ça va être un gros duel. Et Vinicius, il va sauter
sur le terrain.
Aperçois, Vinicius, il aime pas toute la partie contact.
Ouais.
Et Hakimi, il est à 12 000 en ce moment.
Hors du terrain aussi. Tu parles de revanche. Carlo Ancelotti aussi.
Au-delà d'individualité par individualité, le PSG préfère jouer contre des équipes, moi je pense, des équipes comme le Real Madrid, là qui sont un peu plus des blocs moins, on va dire, rouleau compresseur que des Manchester City ou des Liverpool. Donc là, je pense qu'en termes d'intensité, ils n'auraient pas tenu. Là, face à un Real Madrid qui va jouer bloc bas, qui joue un peu plus à l'arrêt, plus avec une approche un peu plus tactique que les autres équipes, où on est vraiment dans l'intensité et la possession de balle, je pense que ça va être plus facile pour eux.
On a parlé des joueurs.
Alors Samir,
moi je me posais une question en fait. On n'a pas parlé du coach, on n'a pas parlé de Pochettino depuis tout à l'heure. Et moi je me posais une question, c'est que de ce qui se dit, quoi qu'il se passe, il gagne la Ligue des Champions, en gros, fin de saison pour Pochettino Paris Saint-Germain en juin. D'accord ? Et je me dis, quand je suis le coach du Paris Saint-Germain et je sais que ma mission se finit en fin d'année, comment j'arrive à motiver mon vestiaire en fait pour un match aussi important? Je sais que quoi qu'il se passe, de toutes les façons, je serai plus au club. Je fais comment pour donner la niaque au joueur?
Je pense de la même façon que Kylian Mbappé. Tu peux faire le parallèle. Si tu peux sortir en tant que coach et tu te fais virer à la fin, si tu sors la Ligue des Champions,
Et Messi, là on n'est pas dans la tête de Cristiano Messi, non, mais mettons il a une rancœur envers le club.
Ouais.
Justement quelque part, on ne sait jamais, il y a déjà des joueurs qui espèrent que leur club perde. Imaginons que ça l'arrange finalement.
Tu sais que Pochettino, je pense qu'il s'en sortirait beaucoup plus grandi de partir et de gagner la Ligue des Champions.
Bien sûr.
Tu vois ce que je veux dire? Donc lui, de toute façon, peu importe d'où on prend le problème, il a intérêt d'aller... De faire le maximum et d'aller au bout.
Et
de
ne pas.
Et voilà, exactement. Donc je pense que lui, il peut même ajouter un nouveau scénario aux entraîneurs mécontents du Paris Saint-Germain ou aux entraîneurs non performants. C'est non pas de gagner la Ligue des Champions dans un autre club et de partir, c'est de gagner la Ligue des Champions au Paris Saint-Germain et ensuite de partir. Donc je ne pense pas qu'il y aura un problème de motivation.
Terence, il dit qu'on a eu l'exemple avec Tourelle, on a vu le résultat.
Bien sûr. Mais elle l'a gagné avec Chelsea. Ouais.
Avec Chelsea, mais avec Paris.
Oui, mais pourquoi?
Parce qu'il se passait exactement la même chose avec Tourelle.
Ouais, hein.
Il savait que ça y est, c'était terminé. On a vu ce que ça a donné derrière. Il changeait de système.
Le timing n'est pas le même.
Après,
le timing
n'est pas le même. Les réseaux sociaux, c'est pas une référence, on est d'accord. On est OK. Par contre, il se disait qu'il faisait des systèmes un peu bizarres, notamment faire jouer Marquinhos en 6 régulièrement, parce que justement, il en avait marre, il voulait foutre le club en l'air pour partir, parce qu'il parlait déjà justement avec Chelsea. Si on fait un parallèle avec Tourelle, c'est pas bon signe, c'est mauvais signe pour moi, personnellement.
Non, ça, après, moi, il y a juste un aspect qui m'inquiète un peu, c'est Mendes. T'es le latéral gauche.
Qu'est-ce qu'il a? Je pense au contraire, je pense que c'est un des plus performants. Tu penses qu'il laisserait des espaces derrière lui?
Énormément, parce que tu t'aperçois que c'est un joueur qui est énormément porté vers l'avant. Et il y a des fois, au niveau tactique, parce qu'il est encore jeune, donc il a encore beaucoup à apprendre. Et c'est vrai que sur des équipes comme ça, où tu fais la moindre erreur, ça peut être compliqué. Il y a des matchs, il est passé au travers. Mais c'est normal, c'est un jeune joueur encore. Il a quoi, 19 ans, je crois? 19-20 ans. Donc après, il y a encore pas mal de choses à...
Bon, je pense qu'au contraire, ça va être un des véritables atouts du Paris Saint-Germain. On l'a encore vu la semaine dernière face à l'OGC Nice. Pour moi, c'était un des seuls joueurs qui sortait
vraiment,
du
lot.
Donc, contre le LOSC, contre l'OGC Nice.
On parle de Nice par rapport au Real. Quoi.
Le LOSC aussi, ça reste quand même le champion de France. C'est une équipe de Ligue des Champions.
C'est justement ça le paradoxe du Paris Saint-Germain.
Le Paris Saint-Germain.
Quand ce style de club-là, ils arrivent à hausser le niveau de jeu. C'est le club qui est impronosticable.
Ouais.
Ils peuvent gagner 4-0 comme perdre 4-0.
Ouais, ça fait peur
alors.
Possible,
hein. Dans les deux sens, c'est possible.
Tu as l'impression tout le temps.
Non, mais j'ai compris le raisonnement de Terence. Ouais. Terence, il se dit il y a Benzema qui est absent côté madrilène.
Ouais.
Il y a Kurzawa qui est absent au latéral gauche côté parisien. Donc avec Mendes, ça va être compliqué.
Non, c'est plus la Bernat. Bernat,
il est pas inscrit.
Ouais. Mendes, c'est la crème de la crème.
Ouais.
Il est pas inscrit, Bernat. Ça, c'est dommage.
Ouais. La psychologie qui vient de nous sortir, Yasmine, tu n'as pas fait attention à Samir. Hein, ouais. En fait, on est toujours en euphorie ou voire peut-être. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est fou quand même. Ils ont toujours l'impression, les supporters parisiens, à entendre Samir.
Ouais, mais tu parles comme si en fait le PSG avait le choix de gagner ou pas ce match-là et de gagner ou pas la Ligue des Champions. Ils n'ont pas le choix. Avec toutes les stars qu'ils ont recrutées, ils sont obligés de gagner la Ligue des Champions cette saison. Après, Pochettino, si lui gagne la Ligue des Champions, qu'ils sont motivés ou pas, moi, je me dirais peut-être qu'il pourrait être prolongé, peut-être qu'il signera un nouveau contrat, on ne sait jamais. Tu sais très bien que dans le football, ça va très vite. Mais effectivement, là, à l'heure actuelle, on n'en est pas encore là. Quoi.
Kevin, peut-être.
Oui, je disais, Paris a tout intérêt à gagner ce match parce que le climat il est un petit peu houleux avec les supporters en ce moment, ça chauffe un petit peu.
Ouais.
Je pense qu'une défaite ou éventuellement une élimination au match retour pourrait faire mal à Paris. Donc est-ce qu'ils vont avoir le soutien de la totalité du stade? Imaginons qu'ils soient menés, je ne sais pas, c'est des choses qui peuvent arriver.
Moi je ne vois pas comment est-ce qu'on peut être mécontent en tant que supporter parisien. T'es premier du classement avec plus de 10 points, t'es qualifié en Ligue des Champions face à un Real Madrid vieillissant, avec potentiellement l'absence de Karim Benzema, t'as une équipe de rêve, t'as un coach qui prend pas trop de place.
Pas trop de vagues par rapport aux années précédentes,
donc tout va bien. Les
Pochettino reste quand même à sa place.
Je suis supporter parisien, je suis plus ou moins content. Je peux mettre mes pieds sur la table basse. Des noix de cajou, une petite coupe de champagne, du champagne pour ceux qui ne boivent pas.
Et des pains.
Et je regarde les matchs tranquillement. Quoi.
Mourad, tu
vois ce que je veux dire?
Alors, Manchester, justement. On va s'y attarder, la transition parfaite. Oui, le football anglais.
Le champagne et les cacahuètes, retour, moi.
Et là, il y a l'aspect motivation.
On verra.
Ouais, il n'avait plus de bulles, le champagne.
La dernière rubrique de cette émission.
Jus de pomme.
Time Sport, le mode pressing.
Burnley, Manchester United, hier. Un but partout. Cristiano n'y arrive pas, même les Mancuniens, c'est le Diable Rouge. Eh oui, Samir Terence. Que se passe-t-il encore du côté d'Old Trafford?
On a beaucoup de problèmes à résoudre ce soir.
Il y en a pas mal ce soir.
Parce que, Paris 2024. Pour le coup, Manchester, offensivement, enfin, je ne sais pas, peut-être que vous n'allez pas me répondre, mais ce n'est pas dégueulasse, offensivement, Manchester.
Alors,
mais tu rigoles.
Sur le papier, non.
Il y a des avions de chasse devant.
Merci, donc on est d'accord. Et pourtant, mais c'est incroyable. C'est pas fou.
Et même le milieu de terrain.
Et tu te permets de lâcher Martial. Je te dis, en fait, c'est mon avis, hein, mais pour moi, c'est pas une perte hein, d'avoir lâché Martial, mais tu peux te permettre de lâcher Martial. Et pourtant, tu te dis que non, je sais pas. Je sais pas si c'est un problème entre les lignes, dans les transitions, dans ce club. À chaque fois que je regarde, bon, c'est la première ligue en même temps, on est d'accord, c'est un jeu très vertical, très, très intense. Mais en fait, il n'y a jamais de.
Il a été spoté, le problème.
Mais à chaque fois que je regarde Manchester United jouer, je me dis, mais en fait, j'ai l'impression que ça va toujours finir à 0-0, ils vont perdre 1-0. La dernière fois, c'était contre, il me semble, West Ham.
Ils font souvent des petits scores. Hein.
1-0, ouais. En fait, c'est un plus 1 à la fin du match.
Non. La problématique.
Avec autant d'atouts offensifs, Bilal, je réponds à ta question, je ne sais pas.
Mais c'est trop dur. Mais c'est ça, et surtout, tu t'aperçois, ils ont perdu Martial. Ils ont l'affaire Greenwood. T'as Cavani qui est en plein désastre.
C'est la méforme de Fernandez aussi. Kevin, connaît ça par rapport à
Ça va, moi, tous les jours, je voudrais bien avoir un Fernandez qui soit en méforme comme ça, franchement. Non, après.
C'est lui qui fait la passe D, il me semble, sur le but de. Il fait l'avant-dernière passe sur le but de Pogba.
Après, t'as une problématique entre tu changes de coach, t'as un nouveau management.
On parle de beaucoup de choses côté Manchester United, mais pour moi, le problème, il est clair, il est identifié, il est spoté. Et
attention à ce que tu vas dire, Mourad.
C'est la défense centrale.
Ouais.
Ça pourrait être la pluie.
Oui, ça pourrait
à Burnley, c'était la pluie aussi. Parce qu'à Burnley, à Turf Moor, c'est Harry Maguire. Je sais pas si vous avez vu sur le but. Sur le but de Burnley, c'est incroyable. Ils se font avoir comme... Là, je regardais un tout petit peu avec toi en parallèle le match de Versailles contre Bergerac. Je pense que la défense de Versailles, elle est plus mature que la défense centrale de Manchester United. C'est incroyable. Varane, c'est plus le même. Je pense qu'il faut se mettre à l'idée que quand le Real Madrid voit un joueur...
Déjà derrière, c'est pas pour rien.
Je pense qu'il y a une raison. Ouais. Varane, il y a un gros souci d'intelligence tactique.
Ouais.
Donc, et en plus, il n'est pas aligné à côté d'un Cador. C'est pas Sergio Ramos à côté.
Sur la défense centrale, je suis d'accord avec toi. Mais même les gros clubs, le Bayern, le Barça, de la belle époque, hein, évidemment, même tu prends 2-3 buts, mais tu as tellement une armada offensive de fou que tu en mets 5 et tu gagnes ton match à la fin. Là, même si tu prends un but, au final, tu perds quoi? Tu perds sur du 1-0, sur du 2-1, etc. Mais tu marques pas avec
le score
offensivement, tu marques pas. Prendre des buts, pour moi.
Alors là, il y a un deuxième souci.
C'est une carence, mais pour moi, avec ce que tu as offensivement, même si tu prends un but, tu dois en marquer 3, tu dois en marquer 4.
Et puis alors là, il y a un souci.
Tu tout terminé, messieurs. T'as une problématique de fond de jeu, quand même.
Ouais.
Ah, moi, c'est clair.
C'est ce que j'essayais tout à l'heure de le.
Il n'y a pas de créativité, il n'y a pas d'intensité. Hier, en deuxième mi-temps, c'était d'une. C'était le jour et la nuit. Il y avait la première mi-temps.
C'est une catastrophe, franchement.
Il y avait la première mi-temps, grosse intensité. Deuxième mi-temps, les joueurs étaient éteints, notamment Paul Pogba.
Merci.
Il y a un gros problème au niveau des latéraux. C'est terminé?
C'est terminé. C'est ça. On doit rendre l'antenne. C'est bien ça. Désolé, Yasmine. On se retrouvera à partir de demain sur l'antenne de Beurre FM à partir de 20h. Oui, justement, on a les pages pub et aussi vous pouvez retrouver à 22h Vanessa en compagnie de Giovanni à la réalisation. Merci de d'avoir été avec nous ce soir. Encore toujours là. Toujours plus en plus nombreuses et nombreux, si je peux me permettre. Nous, on se retrouvera d'ici demain à partir de 20h.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.